Vous êtes arrivé.
Le GPS.
À destination.
France Bleu Occitanie. Brigitte Malchine.
Le GPS de France Bleu Occitanie, comme tous les samedis matins, nous partons en balade, dans cette première demi-heure en tout cas. Et nous sommes ce matin en compagnie de Marie Grenier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui dit Marie Grenier dit forcément un peu Pays Basque. Hein.
Oui, c'est ma spécialité.
Sauf que aujourd'hui, c'est pas vous qui avez écrit l'article.
Et non, cette fois, on a confié notre plume à Itziar Oborda, qui est une écrivaine basque.
Carte blanche donc à une écrivaine parmi les plus renommées, hein, une enfant du pays, dites-vous, qui, roman après recueil de poèmes, évidemment décrit sa terre avec amour.
Oui, c'est une écrivaine. Alors, c'est vrai que au-delà des frontières du Pays Basque, c'est pas forcément un nom qui résonne beaucoup, mais là-bas, elle a un grand poids. Et c'est quelqu'un qui écrit dans les deux langues, en basque et en français, et parfois même les mêmes livres en français et en basque, comme c'est le cas pour 100% basque, qui est un de ses romans les plus forts, enfin les plus connus. Et voilà, qui est très représentatif du pays parce que de double culture, née à Bayonne, qui a vécu un petit peu partout au Pays Basque et à Paris aussi, et qui est désormais installée à Bayonne.
Marie Grenier, et vous avez demandé à Itziar Oborda de nous proposer 5 balades.
C'est ça, on lui a demandé de parmi les lieux qui la faisaient vibrer dans son Pays Basque, de nous en prélever 5, comme ça, complètement choisis dans la subjectivité, et de nous dire qu'est-ce qui en faisait le prix.
Eh bien, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette balade en Pays Basque, en compagnie de Marie Grenier, certes, mais aussi d'Itziar Oborda.
Bleu. France Bleu Occitanie. France Bleu.
I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. I love you. The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try.
La la la.
Tous les samedis, activez votre GPS jusqu'à 11h.
Le GPS de France Bleu Occitanie jusqu'à 11h. Dans cette première demi-heure, nous sommes en compagnie de Marie Grenier, journaliste à Pyrénées Magazine, et nous voyageons en Pays Basque grâce notamment à la littérature d'Itziar Oborda. C'est à suivre dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie.
France Bleu.
Tous les week-ends, par ici les sorties.
Loto, vide-grenier, concert. Tous les samedis et tous les dimanches à 11h, par ici les sorties. Venez nous présenter les manifestations que vous organisez ou celles que vous aimez au 05 34 43 31 31. Rendez-vous samedi et dimanche à 11h.
Par ici les sorties.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne organise les rencontres de la laïcité et des valeurs de la République. Une semaine d'événements gratuits, débats, tables rondes, expositions. Ne manquez pas, le jeudi 12 décembre à 19h, à l'hôtel du département, la soirée débat avec Gérard Noiriel sur le thème « Les valeurs progressistes de la République pour combattre les discours de haine ». Inscription et programme complet des rencontres de la laïcité sur haute-garonne.fr.
France Bleu Occitanie. France Bleu. 10h, 11h, le GPS France Bleu Occitanie.
Le GPS de France Bleu Occitanie en compagnie de Marie Grenier, journaliste à Pyrénées Magazine. On est en plein Pays Basque pour des destinations choisies et décrites par une écrivaine basque, une des écrivaines basques les plus renommées d'ailleurs, Itxaro Borda. Et pour cette première, pour ce premier site, vous avez décidé de nous emmener où, Marie?
Alors, elle a choisi trois lieux qui étaient de ce côté-ci de la frontière, le côté français, donc au Pays Basque Nord, et deux lieux qu'on verra plus tard qui sont de l'autre côté de la frontière, donc en Espagne. Donc là, je vous propose se balader à Saint-Engrasse, qui est un village de Soule, puis d'aller à Arnaga, la villa Arnaga, la villa d'Edmond Rostand. Oui. Et puis de finir la balade plus dans la nature, dans le bois de Mix.
C'est parti pour Saint-Engrasse, en Soule donc, destination ultime. C'est vous qui le dites ou c'est elle qui le dit?
Alors c'est tout le monde qui le dit en fait, hein, parce que la Soule, c'est la Soule, particulièrement la Haute Soule, c'est un endroit, c'est l'endroit le plus qui est le plus proche du Béarn, si vous voulez, du Pays Basque, et c'est sans doute le moins connu, très peu peuplé, et où il y a une culture encore très très vivante, marquée de tout le passé, et voilà, donc il y a une simple route qui mène à Saint-Engrasse, qu'on suit assez longtemps et où on passe par des petits quartiers. Là-bas, ce qu'on appelle quartier au Pays Basque, c'est pas du tout les quartiers d'une ville ici. Hein.
Ah bon ?
C'est d'autres parties du village. Les villages étant extrêmement étendus, c'est le cas de Saint-Engrasse. Il y a plusieurs kilomètres entre les parties des villages et au milieu, il peut y avoir des forêts. Donc c'est vraiment voilà, c'est des paysans, hein, c'est pas du tout le même concept de village. Et elle nous emmène à Saint-Engrasse, donc au quartier la Caserne, qui était un lieu où étaient installés donc des gendarmes, des douaniers, etc. Parce que là, on est vraiment à deux pas de la frontière, hein, et donc avec tout ce que ça suppose d'histoire, de contrebande, de passages divers et variés, pas forcément illégaux d'ailleurs, hein, parce que c'était un endroit qui était marqué par, notamment a été marqué par les hirondelles. Les hirondelles, c'était des femmes qui venaient de l'autre côté, donc de la partie espagnole, qui venaient travailler à Mauléon pour fabriquer des espadrilles. Donc ça, c'était au début du XXe siècle. Donc il y a eu des passages comme ça. C'est un lieu de passage, Saint-Engrasse. C'est à la fois effectivement une destination ultime, en voiture, voilà. Mais par contre, à pied, il y a du passage. Mmh. Donc ça communique beaucoup.
Alors après les gendarmes, il y a les gens de robe. Après la caserne, il y a aussi l'église.
Tout à fait. En fait, le village de Saint-Engrasse, ce qu'on appelle le bourg, donc là, c'est plus un quartier, c'est le bourg, c'est le centre, quoi. Ça se réduit presque à une église, son petit cimetière qui est vraiment magnifique, et puis quelques maisons autour, un gîte pour les passages, les randonneurs, parce qu'il faut savoir que Saint-Engrasse est sur le GR10, donc il y a quand même beaucoup de passages, mais c'est tout à fait perdu, et cette église est incroyable, elle a une forme étonnante, elle est incroyable à l'intérieur également, il y a très très belle, très très douce, très avec un grand silence, quelque chose de profond, et qu'on retrouve également dans le cimetière, puisque c'est un des rares cimetières où il y a une partie moderne, hein, mais il y a une partie très très ancienne avec les stèles discoïdales. Les stèles discoïdales, ce sont des tombes En fait, on ne voit que sortir un petit morceau de granit et puis un disque de granit au-dessus. Ça, c'était comme ça qu'étaient les tombes basques traditionnelles, quoi.
Marie, on est donc du côté français, hein, du côté nord,
oui, toujours,
versant là, nord du Pays Basque, donc.
C'est ça.
Et là, c'est vous nous emmenez dans une maison. On peut dire ça comme ça.
Oui, une maison, un domaine. Arnagas, c'est la villa que fit construire Edmond Rostand au tout début du XXe siècle, entre 1903 et 1906. C'est une maison, effectivement, qui a été construite parce que cet homme de lettres, qui avait un côté comme ça, un peu extravagant, un peu... c'est l'auteur de Cyrano de Bergerac, c'est l'inventivité, l'explosion de linguistique, etc. Ouais. Ben, il a fait la même chose avec avec ce domaine. Donc c'est un mélange incroyable, un peu fantasque, un peu. Il y a des goûts différents partout, mais tout est démesuré et voilà, c'est éclectique. C'est vraiment un endroit à voir, très très étonnant, et tout est d'extrêmement bonne confection et qualité.
Marie Grenier, on se retrouve dans un instant pour continuer cette balade en Pays Basque, une balade concoctée par une écrivaine, Itcha Oborda, à laquelle vous avez donné carte blanche dans le dernier Pyrénées Magazine.
De Toulouse à Auch, vous écoutez France Bleu Occitanie.
Show.
Bleu, Occitanie. Laissez-vous guider avec le GPS France Bleu Occitanie.
Le GPS de France Bleu Occitanie, pour quelques minutes encore, nous sommes en compagnie de Marie Grenier au Pays Basque. Alors avant de passer du côté du versant sud du Pays Basque, peut-être une petite promenade en forêt. Vous nous avez donné l'eau à la bouche en nous parlant du bois de Mix ou de Miché.
On peut dire les deux. On dit ça maintenant beaucoup Mix, donc de toute façon on va dire comme ça.
Donc dans le bois de Mix.
Ouais, alors c'est pas Itziar Obarda a choisi une des forêts les plus connues et célèbres du Pays Basque. On connaît assez bien, on a déjà entendu les noms de Irati ou des Arbailles. Là, c'est un tout petit bois, le bois de Mix, et dont elle chante vraiment bien le côté à la fois naturel et le côté lieu travail soumis au travail de l'homme, donc l'exploitation du bois, etc. Et tout ce qui l'a marqué, elle, ça c'est assez émouvant, petite fille dans la crainte des vagabonds qui pouvaient y vivre, etc. Donc c'est oui. C'est à la fois un lieu réel et un petit peu fantasmé
et imaginaire. Ouais. Alors on passe dans le versant sud.
Allez, on est parti. On peut aller à Chilidalecu.
Chilidalecu.
Oui, en fait, ça veut dire le lieu de Chillida. Chillida étant un sculpteur basque, Eduardo Chillida, qui est mort maintenant il y a une quinzaine d'années, 17 ans exactement. Alors les sculptures de Chillida, c'est très particulier, c'est monumental, c'est minéral, c'est imposant. On peut voir ces sculptures dans des tas d'endroits au Pays Basque, notamment à Saint-Sébastien où il y a le très connu Les Peignes du Vent qui est devenu depuis le logo de la ville. Mais reste que Chillida avait envie d'avoir un lieu, son lieu. Donc c'est Chillida Lékou. Il a donc acquis une vieille ferme basque, Sabalaga, et puis tout un domaine qui est autour, et des grandes, grandes pelouses vertes où il a implanté, ou fait implanter, parce que c'est vraiment des sculptures monumentales, des sculptures un petit peu partout. Et depuis très peu, c'est-à-dire depuis le printemps dernier, ce parc est rouvert au public. On peut donc y aller et se balader dans un domaine très très grand, un parc très grand, où on peut marcher sur les pelouses, bien sûr, c'est même fait pour, hein, et se balader au milieu de ces sculptures. C'est vraiment quelque chose à faire, c'est incroyable.
Des sculptures d'ailleurs qu'on peut retrouver aussi dans le monde entier, hein, dites-vous.
Oui, alors il y en a beaucoup au Pays Basque, c'est vrai, mais c'est un sculpteur qui a eu beaucoup de renommée, donc il y en a dans des tas d'endroits en effet.
Jusqu'à
À
Washington,
Barcelone, oui, dans les grandes capitales en général, il y en a.
Les sculptures donc de Chillida Lékou à retrouver en photo d'ailleurs dans le dernier Pyrénées Magazine. Autre endroit, entre ciel et terre, je vous laisse prononcer le nom, hein.
Alors c'est Gastélugatché. Gastélugatché, c'est une sorte de presqu'île qui est très près de Bilbao, donc en Biscaye, Pays Basque Sud, et que beaucoup d'entre nous ont vu sans savoir qu'il s'agissait de Gastélugatché, parce que c'est le lieu. Alors moi, je ne suis pas Game of Thrones, mais je sais que c'est le décor du château de Dragonstone. Je crois que c'est une princesse qui a mis au monde des bébés dragons, quelque chose comme ça. Et bref, c'est cet endroit-là, qui est assez incroyable et assez légendaire en fait, hein, rien qu'en lui-même, hein, qui a été utilisé pour faire les images de ce royaume. Alors, ça se comprend assez bien parce qu'on y accède par un chemin tout étroit et avec beaucoup, beaucoup d'escaliers qui relient à une terre comme ça qui est plantée au milieu de l'eau, traversée de trous, hein, où l'eau passe, le vent aussi.
On dirait un pont naturel avec deux arches sur la
Oui, c'est
photo,
ça.
hein?
Oui, tout à fait, ouais.
C'est
Et
incroyable.
c'est tout à fait incroyable. Et le chemin, alors on ne le voit pas forcément très très bien sur la photo là, mais vous irez voir des images. Le chemin est assez incroyable pour y accéder. Et ensuite, on arrive donc sur une sorte de petite île, toute petite, hein, avec à son sommet un ermitage, l'ermitage de San Juan de Gastélugatché.
Pardon?
San Juan, c'est un ermitage qui est dédié à Saint Jean-Baptiste, San Juan,
D'accord.
de Gastélugatché.
Ouais. Ce sentier dont vous nous parlez, c'est une sorte d'arabesque au sommet d'une crête qui est
Alors, c'est
au milieu
effectivement un
de l'eau.
chemin en zigzag au milieu de l'eau, et il faut quand même se monter ces petites 241 marches pour avoir la joie d'y accéder. Mais ça vaut le coup, hein.
C'est magnifique, c'est absolument magnifique.
C'est magnifique, et puis c'est un côté irlandais ou irréel même. Enfin, on ne s'attend pas du tout à voir ce genre de lieu. C'est pas pour rien qu'ils l'ont choisi dans Game of Thrones, en fait.
C'est un côté fantasy?
Ah, tout à fait. C'est rare de voir des endroits comme ça. C'est battu par les vents, battu par les flots. C'est très très, oui, c'est très très étonnant. Et en plus, c'est hyper accessible. Il suffit d'aller à Bilbao, il y a un bus qui vous emmène et hop, vous y êtes. Hein. Donc après, bon, il faut accepter de marcher ces fameuses 241 marches.
Et oui, et là, on ne sait pas où on est, on ne sait plus où on est, on peut être n'importe où.
On est perdu au milieu de l'eau, on est perdu au milieu des légendes du Pays Basque,
C'est
des
ça.
légendes, du légendaire de manière générale, oui.
Et peut-être un peu dans ses rêves aussi. Merci beaucoup Marie Grenier pour cette balade concoctée également par Itcharo Borda. À
Oui, qui nous
retrouver.
a fait l'amitié d'écrire tous ces textes et on la remercie.
À retrouver donc dans le dernier Pyrénées Magazine. À bientôt Marie.
Réécoutez, podcaster sur FranceBleu.fr.
Le GPS de France Bleu Occitanie, jusqu'à 11h, comme tous les samedis, c'est l'heure de la lecture et c'est en compagnie de Caroline Fredon. Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Oh, dites donc,
Oh
vous
là
avez les
là.
bras chargés là. Hein
Ben, c'est-à-dire que Noël approche, hein, vous l'avez dit. Donc ben voilà, 6 bouquins, 3 ados et 3 pour les plus petits. Il y a de quoi faire. Vous aurez de quoi remplir les chaussons sous le sapin.
Ah, pour les adultes, ce sera la prochaine fois?
Oui, chacun son tour.
Aujourd'hui donc, la lecture des jeunes et des plus jeunes à suivre donc sur France Bleu Occitanie.
France Bleu! Tous les week-ends,
attention pour le décompte final,
à 8h10,
espace, frontière de l'infini,
embarquement immédiat.
Au programme de ce week-end, arriver à propulser un micro-satellite CubeSat, eh ben c'est pas une mince affaire. Et puis on parlera également de Thomas Pesquet qui pourra retourner dans l'espace en 2021. Ou pas.
Tous les week-ends à 8h10 sur France Bleu Occitanie.
France Bleu Occitanie.
France Bleu.
J'aime en regarder des filles qui marchent sur la plage, sur leur peau le soleil caresse bien trop sage, le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime en regarder les filles qui marchent sur la plage, les
Tous les samedis, activez votre GPS jusqu'à 11h.
Le GPS de France Bleu Occitanie, en compagnie de Caroline Fredon, on bouquine évidemment. Alors, évidemment. Si vous ne l'aviez pas remarqué, mais Noël approche. Ça se voit dans les vignes.
Dans les vitrines,
ça
oui.
Ça y est, les guirlandes, c'est partout, les oui, sapins les de lumières. Noël. À propos de sapin de Noël, il y a le pied du sapin de Noël, il y a les chaussons sous le sapin.
Qu'il s'agirait de garnir, oui.
Voilà. Alors cette semaine donc, nous débutons par la jeunesse avec un roman d'ailleurs de l'écrivaine Jo Vitek. On dit Vitek ?
Oui, moi je dis Vitek.
Jovitech, qui sera samedi prochain d'ailleurs, à 11h, à la librairie Fleury à Toulouse.
Avec un roman intitulé « Premier arrêt avant l'avenir ». Et nous y vivons 72 heures aux côtés de Pierre, un jeune bachelier, brillant, j'ai même envie de dire ultra brillant, à l'orée de très belles études.
Alors vous m'avez dit que tout commence dans un train.
Oui, Pierre est issu d'une famille très modeste, d'un petit village proche de Béziers, et il a été reçu à Matsup dans un prestigieux lycée parisien. Mais dans le train vers la capitale, il rencontre Olympe, étudiante en médecine, dreadlock et pieds nus. Une rebelle donc qui éblouit ce jeune homme qui a toujours suivi les règles.
Ah ben rebelle aux pieds nus, on s'en doute qu'il va être ébloui. Premier arrêt avant l'avenir, c'est donc un roman d'apprentissage, de découverte de soi, Caroline.
Jovitech nous fait vivre ce passage délicat, vous savez, de l'adolescence à la vie d'adulte, quand on s'affranchit des désirs et des ambitions de ses propres parents pour les siens propres. Et j'ai été, mais alors, rivée aux pages de ce bouquin, à suivre le cheminement intérieur de Pierre. Il est projeté dans l'univers d'Olympe, plus versé dans la politique et la sociologie que lui, qui est scientifique, hein, pur et dur. Et Olympe qui va partir en voyage humanitaire pour 6 mois sur un bateau.
Ah,
ça impressionne, ça.
Hein. Oui, effectivement. C'est beau, hein, aussi. Deux univers, donc, et finalement une déflagration dans la vie de Pierre.
Totalement, il découvre l'amour, la sexualité, et il ouvre les yeux sur la société, lui qui passait son temps dans les livres, alors c'est pas moi qui lui jetterai la première pierre, vous en doutez, on le sent totalement dérouté, écartelé entre sa famille, ce qu'on attend de lui, et puis ses propres ambitions, ses sentiments nouveaux, la liberté et cette femme qui l'attire.
Jovitech parle donc des choix de vie dans ce roman.
Oui, des destins qui peuvent basculer, des tentations qui pourraient nous détourner de nos objectifs. C'est un bouquin qu'on lit en apnée, un peu comme un thriller presque psychologique, qui porte une réflexion enrichissante sur nos trajectoires de vie, sur l'équilibre entre passion et raison. Un super roman jeunesse.
3 jours pour changer de vie ou pas. Avec Premier arrêt avant l'avenir de Jovitech qui sera à la librairie Fleury à Toulouse samedi prochain à 11h et c'est publié chez Actes Sud Junior. Pour nos ados, il y avait de très bonnes choses aussi en roman ado cette rentrée.
Oui, Féline de Stéphane Servant, publié aux éditions du Rouergue, on en avait parlé, où des adolescentes voient leur corps se transformer, se couvrir de poils et leur sens se développer comme des félins, d'où le titre. Féline donc parle de discrimination, de racisme, de lutte pour un monde meilleur et de résistance. C'est un roman totalement palpitant.
Et puis je me souviens aussi d'un roman dont vous nous aviez parlé, on peut l'offrir, hein, un roman sensible sur un sujet délicat intitulé La fille du monstre de Florence Aubry.
Oui, un roman totalement bouleversant mais aussi totalement lumineux sur l'histoire de cette jeune fille dont le père est défiguré après une tentative de suicide. Un acte qui, vous en doutez, changera leur vie. Beaucoup de sensibilité dans ce bouquin sur un sujet qui est quand même assez difficile mais très optimiste aussi. Et je rappelle le titre donc, c'est La fille du monstre de Florence Aubry. C'était publié chez Gallimard.
Caroline Fredon, on ne bouge pas. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Occitanie et on passe à la lecture des tout-petits.
France Bleu Occitanie. France Bleu. Me.
that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, à Lectoure, dans le Gers, vous écoutez France Bleu Occitanie.
Heures, 11h, heures,
Le GPS France Bleu Occitanie.
Le GPS de France Bleu Occitanie jusqu'à 11h. C'est le coin de lecture en compagnie de Caroline Fredon. Dans quelques minutes, on s'intéresse aux albums pour les plus petits. France Bleu.
En voiture, à vélo, dans votre bus, votre métro, de chez vous à votre boulot, France Bleu Occitanie vous accompagne tout au long de la journée.
Juste à la bifurcation qui va à l'aéroport, il y a un accident.
Infotrafic et mobilité en temps réel.
Ah quoi, c'est énormément.
Du matin au soir sur France Bleu Occitanie.
Ce week-end, c'est le Téléthon. Pour tout savoir sur les événements, francebleu.fr et pour participer, un seul numéro, le 3637.
France Bleu Occitanie. France Bleu.
Le GPS de France Bleu Occitanie pour quelques minutes encore en compagnie de Caroline Fredon. Alors, vous nous avez recommandé quelques lectures pour nos ados, pas que d'ailleurs. Hein, moi, j'ai bien envie de lire.
Ah, ils sont très bien.
Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'à cette lecture, les adultes peuvent se projeter en arrière dans leur propre
tout à fait.
Histoire complètement. D'adolescent. Donc, après ces lectures pour ados, des idées cadeaux pour les petits. Premier choix, Quatre pattes de Gaëtan Doremus.
Oui, un album adorable où nous suivons un petit ourson dans sa découverte du monde et à quatre pattes donc.
Ah oui, ce petit ourson qui vit donc, comme tous les petits, de véritables péripéties.
Oui, il se cogne, il tombe dans les ronces, le pauvre, il se jette dans une flaque d'eau, ça pique, ça gratte, ça chatouille. Gaëtan Doremus propose une exploration sensorielle, tout en douceur et tout en poésie dans ce très joli album. On évoque les sensations physiques, mais aussi émotionnel, comme l'émerveillement ou la joie par exemple.
Quatre pattes, c'est un album charmant et au dessin poétique.
Oui, une foule de détails à découvrir à chaque page, un graphisme et des couleurs utilisées qui sont surprenantes, assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans un album pour tout petit, donc c'est super.
Quatre pattes, donc, de Gaëtan Doremus, publié aux éditions du Rouergue. C'est un très joli album à partager avec les bouts de choux des 2 ans. Et puis, pour les enfants un petit peu plus grands, direction le Japon avec Le cerf-volant de Toshiro.
Ah, un gros coup de cœur, cet album de Guylaine Romain et Stéphane Nicolet. Toshiro et son grand-père Sato fabriquent un cerf-volant. Mais une fois dans les airs, le vieil homme ne peut le voir car son corps fatigué l'empêche de lever la tête. Et Toshiro a l'idée de l'installer, le grand-père, pas le cerf-volant, sur un banc devant une flaque d'eau qui forme un miroir.
Et moi, ça m'émeut beaucoup.
C'est très joli.
Cet album de Guylaine Roman nous parle des relations entre les générations.
Une très belle complicité entre ce grand-père et son petit-fils, entretenue au fil des saisons par ses petits gestes du quotidien qui tissent des liens indéfectibles. Et il nous parle aussi de la beauté de la nature, notre émerveillement face à elle.
Avec les illustrations de Stéphane Nicolet qui apportent donc une belle touche de sensibilité.
Ah oui, de légèreté aussi, une gamme de couleurs limitée à quelques teintes, des encres aériennes très inspirées forcément de l'art japonais, une délicatesse folle et un régal pour les yeux et le cœur.
Ah là là, Le cerf-volant de Toshiro, de Guylaine Roman et Stéphane Nicolet, c'est publié chez Nathan. Et puis enfin, pour les 10-12 ans, un roman, Bas les masques, d'Alain Monnier.
Oui, il transpose l'intrigue du Tartuffe de Molière dans un village du sud-ouest où Chloé, une jeune femme énergique et volontaire, a décidé de reprendre la ferme de son grand-père. Évidemment, ses ambitions écolo et sociales se heurtent aux intérêts des uns et des autres. C'est hilarant de bout en bout et ça fait réfléchir, c'est de la très bonne lecture.
Génial. Donc, Bas les masques du Narbonnais Alain Monnier. C'est publié chez Flammarion. Caroline Fredon, merci beaucoup.
Et bonne lecture.
À samedi prochain.
Réécoutez, podcastez sur francebleu.fr.